Radio Cité Genève.
Émission Entre les âges.
Bienvenue dans l'émission Entre les âges, émission présentée par François-Xavier Poisat, ici sur Radio Cité. Dans cette émission, on y traite de musique classique, mais pas que. On y traite aussi de musique avoisinante, de musique qui ressemble, toujours avec un invité. Et l'invité d'aujourd'hui, c'est le très sympathique Michel Veillon, qui est contrebassiste et qui a fait une longue et grande carrière de contrebassiste dans des grands orchestres, mais qui a aussi fait plein d'autres choses et puis qui est d'une façon ou d'une autre souvent associé à la jeunesse. C'est donc un invité parfait pour cette émission qui traite aussi d'intergénérationnalité. Michel Veillon, bonjour.
Bonjour François-Xavier.
Comment ça va? Vous venez du canton de Vaud?
Oui, alors j'ai fait le voyage, effectivement. Mais c'est toujours un plaisir de se retrouver ici dans la campagne genevoise. C'est tellement beau, et voilà, avec le soleil. C'est vraiment une bonne semaine qui s'annonce.
Ah, super. Et c'est aussi là-bas que vous êtes né. Vous pouvez nous dévoiler un petit peu à peu près quand c'était?
Oui, c'était dans les années 50. Au fait, je suis né à Châteaudet. Je suis ce qu'on dit du pays d'en haut. Voilà. Mon père travaillait comme instituteur au moulin et je suis né un soir de tempête de neige le 2 février 1953.
Le 2 février, c'était donc votre anniversaire il y a peu.
Exactement.
Super. Et donc, je parlais d'une longue carrière musicale et comme toute carrière musicale, ça commence par les premières notes, et je crois que pour vous ça commence surtout par une rencontre et pas des moindres, puisque c'est une rencontre absolument fortuite avec un pianiste légendaire. Est-ce que vous voulez nous le raconter?
Oui, effectivement. Donc ma famille vient des Plans-sur-Baie, c'est un petit village où mon grand-père était guide de montagne, mais aussi paysan de montagne, et on passait tous nos étés au Plans-sur-Baie dans un grand chalet pour aider mon grand-père à faire les foins, parce qu'il était, voilà, il mettait ses bêtes à l'alpage, mais l'été, il fallait quand même faire les foins. Et effectivement, il y avait à côté de notre chalet un monsieur qui venait avec sa femme tous les étés, qui arrivait avec une petite dauphine. C'était madame qui conduisait depuis Paris. Et c'était monsieur et madame Perlmutter. Lui, c'était un pianiste très connu, concertiste et professeur au Conservatoire de Paris. Et voilà, il avait un monocle, il avait toujours des pantalons golf, il était très élégant et très poli, très gentil. Et en fait, il était ami avec mon grand-père. Et il venait très souvent le soir pour jouer aux cartes. Il adorait jouer au yass. Alors il disait, Adrien, ce soir, j'aimerais bien venir faire une petite partie, et effectivement. Alors, il venait presque tous les soirs à la maison. Et il était vraiment très sympathique. Et voilà. Et la journée, il faisait ses gammes. Donc, il ouvrait les fenêtres, il montait un piano dans le petit chalet qui était vraiment minuscule. Et il faisait ses gammes et c'était assez intéressant. Et moi, j'allais me promener, j'allais sous le balcon pour écouter les gammes. Et bon, ça c'était pas très amusant. Je préférais aller faire un tour et revenir quand il jouait de la musique qui me parlait plus. Mais voilà, j'étais très intéressé par ce monsieur parce que j'allais aussi le voir jouer. Ça m'intéressait beaucoup. Et un jour, le soir, il dit à mon père, il parlait toujours vieille France, « Oui, Armand, dites-moi, pourquoi vous ne feriez pas faire de la musique à votre fils ?» Et mon père dit, « Oui, mais lequel ? J'ai trois enfants. » « Michel, il dit, « Pourquoi Michel ?»« Ah, mais écoute, chaque fois qu'il passe sous mes fenêtres, je l'entends siffler, il chante tous les thèmes de la symphonie pastorale de Beethoven. Alors je pense qu'il doit avoir l'oreille de musicien. » Et alors, c'était effectivement, c'était une musique qui passait beaucoup chez nous. Mon père aimait beaucoup écouter de la musique, et puis je connaissais tous ces thèmes, effectivement, puis j'aimais bien les siffler. Et voilà, et en fait, cette rencontre avec Perlmutter, ça m'a vraiment donné envie de faire de la musique. Et l'année d'après, mes parents m'ont fait une année, d'études chez une pianiste qui m'a appris le solfège et puis un petit peu de piano. Et j'ai fait une année, en fait, de théorie qui m'a beaucoup servi pour la suite.
Quelle adorable histoire. Alors, on imagine le petit Michel découvrir la musique sous les fenêtres d'un Vlado Perlmutter qui fait ses gammes. Vlado Perlmutter, c'est un pianiste légendaire, un spécialiste de Ravel. C'était un des pianistes qui avait travaillé toute l'œuvre de Ravel, presque toute, avec le compositeur lui-même. Il a d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle Ravel d'après Ravel, où il dévoile quelques-uns des secrets d'interprétation donnés par le compositeur lui-même. On écoute tout de suite le prélude du Tombeau de Couperin de Ravel par Vlado Perlmutter. Ça me fait très plaisir que vous l'ayez choisi, car c'est un de mes morceaux préférés au piano. On écoute.
Radio Cité Genève.
C'était le prélude du tombeau de Couperin de Maurice Ravel, interprété par Vlado Perlmutter, un pianiste qui a bien connu Michel Veillon, contrebassiste, notre invité d'aujourd'hui. Et c'est un peu directement ou indirectement grâce à ce pianiste que Michel Veillon s'est mis à la musique il y a très longtemps avant d'entamer une longue et belle carrière de contrebassiste. Alors comment est-ce que vous êtes passé de la rencontre avec ce pianiste à vos études musicales? Est-ce que vous voulez nous parler un petit peu?
C'était un long chemin, mais d'abord pour revenir au tombeau de Couperin, j'aime beaucoup cette pièce parce que je l'ai joué beaucoup en orchestre avec l'Orchestre des Chambres de Lausanne. On l'a joué même, je pense, à Carnegie Hall en 1983 avec Armin Jordan. C'est une merveilleuse musique. Et effectivement, je voulais rappeler que je crois que Perlmutter était un des derniers élèves de Ravel. Et effectivement, c'est assez impressionnant de penser que, voilà, que c'était son élève. Et après, voilà, lui, il transmet plus loin son savoir. Et voilà, c'était quelqu'un, en tout cas, qui était très attachant, aussi très bien éduqué, très bien élevé. Mmh. Il avait vraiment la grande classe.
Vraiment comme Ravel, quoi, on peut dire.
Oui, et il y a aussi une chose qui me revient en souvenir, c'est que quand il jouait aux cartes, Vlado Perlmutter prenait beaucoup de temps pour choisir ses cartes. Et mon grand-père, qui était assez impatient, il lui disait toujours « Mais joue, Vlado, joue !» Alors, pour un pianiste, effectivement, il aurait pu prendre moins de temps.
Généralement, c'est plutôt les pianistes qui pressent, mais là, c'était
exactement
le contraire.
Voilà. Exactement. Donc, voilà. Donc, après, j'ai fait une année de solfège chez une pianiste, chez Olga Rapin à Montreux. Et ensuite, j'ai commencé le violon, je devais avoir 8 ans, comme ça, chez Marcel Deblu, qui était un musicien à l'Orchestre de Chambre de Lausanne, qui était altiste, et c'était vraiment une personne aussi formidable. Et c'était le frère de Henri Deblu, qui avait écrit le texte de la Fête des Vignerons de 1977. Voilà, c'était des gens vraiment formidables. Et lui, il m'a vraiment fait aimer la musique, parce que quand j'allais jouer chez lui, je jouais mon morceau et lui prenait son violon, il prenait son alto, puis il jouait avec moi, il faisait des tierces, etc. Il mettait un peu d'harmonie là dans ce que je jouais. Et tout de suite, ça me touchait. J'avais dit à ma mère en rentrant que j'avais découvert la grande musique. Je croyais que c'était ça. Voilà. Mais en fait, je me souviens aussi d'une chose, c'est que quand j'allais prendre mon cours, il avait une petite maison comme ça à côté d'un parc à Montreux. Et il y avait toujours son frac qui était dehors comme ça, qui était à l'air pour sécher. Et c'est surtout le frac, moi, qui m'impressionnait, parce que je disais, oh là là, ça j'aimerais bien faire plus que peut-être la musique. Mais avoir un frac comme ça, c'était la chose qui m'intéressait.
Donc à ce moment-là, vous vouliez être musicien plus pour le frac que pour la musique.
Exactement, effectivement. Mais bon, ce Marcel Deblu, c'était vraiment une personne qui me correspondait très bien. Il était très gentil. En plus, à la fin du mois, quand j'amenais l'argent pour les leçons, il prenait son porte-monnaie, puis il me mettait toute sa monnaie dans les poches. Il faisait une sorte de ristourne comme ça. Il me dit, tu diras pas à ta maman. Puis il me donnait la monnaie comme ça. Il était vraiment...
Oh, c'est sympa.
Voilà. Et une fois, il m'avait raconté aussi, je pense que c'était juste soit avant-guerre, soit après-guerre, mais il était jeune et avec ses amis, il avait formé un quatuor. Et il jouait dans les salons de thé. Il faisait de la musique de salon. Et voilà, il gagnait un petit peu d'argent comme ça, parce qu'il y avait toujours une tradition en Montreux, effectivement, avec les grands hôtels et des touristes qui venaient dans les salons de thé, qui venaient écouter, apprécier aussi le climat et puis la musique. Et il jouait avec son quatuor les valses de Richard Strauss, du Chevalier à la Rose. Et puis voilà, les gens applaudissent et il y a un petit monsieur, un vieux monsieur qui va vers eux, qui était déjà quand même assez vieux, qui leur dit « Bonjour messieurs », il leur dit en allemand. Il dit « Bravo, vous avez bien joué, c'était vraiment formidable. Mais je pourrais savoir le nom de l'éditeur de cette musique ?» Il dit « Ah, mais c'est nous qui avons fait l'arrangement, on n'a pas d'éditeur. »« Ah bon ? Ah, alors je vous félicite et je me présente, je suis Richard Strauss. » C'était le compositeur. Et il était au Palace à Montreux. Et voilà, je sais qu'il a même composé des musiques depuis Montreux. Donc lui, il avait croisé Richard Strauss. Et c'était vraiment...
Une histoire incroyable. Montreux, c'est une ville qui revient souvent dans votre parcours, notamment quand, au moment où vous êtes placeur au Festival du Septembre Musical de Montreux, vous dites que vous avez été bluffé par une interprétation de la 6e symphonie de Tchaïkovski et que c'est à ce moment-là que vous avez vraiment été pris de passion pour cet instrument, la contrebasse, qui est très important dans cette symphonie qu'on surnomme la symphonie pathétique.
Effectivement, c'était vraiment un hasard. Bon, moi, je travaillais comme placeur au Septembre Musical parce que j'aimais beaucoup la musique. Et juste avant de commencer, il y avait presque plus de place dans l'auditoire. Et il y avait une ou deux places tout devant à droite, juste en face des contrebasses. Donc, j'ai pris cette place. Et la symphonie commence avec une sorte de d'accord comme ça, des contrebasses qui jouent en quinte. Et après, il y a un solo de basson. Et j'ai dit, ça c'est quand même incroyable, une symphonie commence avec cet instrument. Et au fur et à mesure que j'écoute cette symphonie, je vois les contrebassistes démener sur leur instrument, et jouer à toute vitesse, jouer dans l'aigu, jouer fort. C'était très physique, je les voyais bouger beaucoup. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cet instrument? Je connais pas, quoi. J'étais complètement étonné aussi de la place de la contrebasse dans cette musique. Et puis la musique aussi qui est extraordinaire, cette musique de Tchaïkovski, de la pathétique, c'est quelque chose qui vous prend au cœur. Et après le concert, j'étais complètement choqué par ça. J'ai dit, mais voilà ce qu'il faut que je fasse, je dois faire de la contrebasse.
Et oui, des fois, on dit aux enfants, pour présenter les instruments, qu'il y a des instruments d'orchestre qui jouent presque tout le temps, hein, les violons, les flûtes, les clarinettes, ouais. Et d'autres instruments qu'on sort pour les grandes occasions, les trombones, les contrebasses. Donc voici pour la grande occasion du début de la 6e symphonie de Tchaïkovski, on écoute un extrait que vous avez choisi, c'est interprété par l'Orchestre National de France sous la baguette de Daniele Gatti.
Radio Cité Genève.
92.2.
92.2.
C'était un extrait de la 6e symphonie de Tchaïkovski, la symphonie pathétique, jouée par l'Orchestre National de France sous la baguette de Daniele Gatti. Une interprétation choisie par notre invité d'aujourd'hui, Michel Veillon, contrebassiste, qui a choisi cet extrait pour montrer à quel point la contrebasse peut aussi occuper le devant de la scène dans des œuvres symphoniques. Donc vous êtes contrebassiste professionnel, vous avez beaucoup joué avec l'Orchestre de Chambre de Lausanne, avec l'Orchestre de la Suisse romande. Ça a donné l'occasion de tourner international dans les plus grandes salles du monde. Est-ce que vous voulez nous raconter une ou deux anecdotes ?
Oui, bon, il y a beaucoup d'anecdotes, mais je pense aussi la plus marquante pour moi, c'est la première fois que j'ai joué avec l'OSR. C'était en 1980, parce que en été 80, j'étais parti aux États-Unis avec mon ami et un couple d'amis, et on a fait un road trip depuis Denver jusqu'à San Francisco. On avait fait toutes les Rocheuses, c'était magnifique. Mais quand je suis rentré, mon professeur m'a appelé, il m'a dit « Tu étais où ? Tu n'as pas travaillé ?» Il m'a commencé à m'engueuler. Il m'a dit « Écoute, j'étais inscrit pour un concours d'orchestre pour remplacer à l'OSR, il faut que tu te prépares. » Je dis « Ah bon, très bien, merci, je suis content de l'apprendre. » Et heureusement, quand on fait des études, on travaille beaucoup les traits d'orchestre, c'est-à-dire c'est des choses qui reviennent tout le temps. On joue la 6e, la 5e de Beethoven, on joue Mozart, on joue toutes ces pièces qui sont très difficiles pour la contrebasse. Donc je connaissais quand même ces traits d'orchestre. Et voilà, il fallait aussi travailler en concerto. Donc quand j'étais à ce concours, je n'étais pas du tout stressé parce que j'étais sûr que j'allais de toute façon pas passer. Donc voilà, c'était pour le plaisir. Et puis finalement, j'ai été pris. On était une douzaine, ils en prenaient deux, j'étais le deuxième. Alors voilà. Et pendant 3 mois, rien ne s'est passé. Et un matin, début janvier, je pense, 81, on m'a dit oh, « Voilà, Michel, il faut que tu viennes au Grand Théâtre. On joue le Chevalier à la Rose. Est-ce que tu peux être là à 9h30 ?» Oui. Donc voilà. Et je suis parti au Grand Théâtre et on m'avait préparé une contrebasse, mais qui avait une corde de plus, qui avait une 5 cordes, donc ça j'avais jamais joué, c'était déjà surprenant pour moi. En plus, on m'avait mis à côté j'étais à côté des timbales, donc je n'entendais rien ce que je jouais, et j'étais au 3e rang des contrebasses, je voyais pas le chef, celui qui était devant moi, il avait mis son tabouret très haut, il avait les cheveux un petit peu... il prenait beaucoup de place. Je ne voyais pas le chef, donc je n'entendais rien, je ne voyais rien, je ne comprenais rien. C'était vraiment très difficile. La première heure, j'étais vraiment un petit peu paniqué parce que je ne comprenais rien. Et finalement, ça s'est arrangé, les gens étaient gentils, ils m'ont expliqué, etc., etc. Et après, j'ai acheté le disque, j'ai travaillé les partitions. Ça s'est bien passé. Mais le début, la première heure, je vous assure, c'était la pire de ma vie. C'était vraiment très difficile. Et l'orchestre avait déjà répété. Il avait déjà fait 4 ou 5 répétitions. Donc, on était déjà dans la fosse. On répétait déjà avec les chanteurs. Donc, on n'avait pas le temps de refaire les passages. Il fallait, voilà, on traversait.
Et oui, quand on parle de fosse, il ne s'agit pas de la fosse au Lion, mais de la fosse dans les opéras, l'endroit un peu souterrain où se trouve l'orchestre pendant les opéras. Donc là, on parle de grands opéras, de grands répertoires, de grands orchestres, mais il y a une expérience, une anecdote avec à propos de laquelle on a discuté avant l'émission qui sort un petit peu de l'ordinaire, c'est quand vous avez accompagné Céline Dion, une autre grande artiste, et vous m'avez appris d'ailleurs que quand Céline Dion gagne l'Eurovision en 1988, ce n'est pas sous les couleurs du Canada, mais sous les couleurs de la Suisse. Chose que je ne savais pas et qui m'a beaucoup étonné. Et donc, comme le veut la tradition, l'année d'après, l'Eurovision se passe donc dans le pays qui vient de remporter l'Eurovision. Et c'est la chanteuse lauréate, donc la dernière lauréate en date, qui chante pour le concert d'ouverture. Et donc, en 1989, vous jouez dans l'orchestre pour accompagner Céline Dion. Quelques mots, vous l'avez rencontré, vous lui avez parlé ?
Oui, on lui a parlé. Mais disons, je veux revenir un petit peu comment ça s'est passé, parce que à cette époque-là, j'avais des élèves en pré-professionnel, et j'avais 2 élèves qui m'ont dit « Ah, on va faire un concours, parce qu'ils font une sorte de casting pour réunir un orchestre symphonique pour l'Eurovision, donc en 89 ». Et j'ai dit « Ah oui, c'est très bien ». Donc, ils ont été à Genève. Je me suis pas tellement occupé parce que ils leur demandaient d'accompagner un petit peu. C'était des choses qu'il fallait pas tellement préparer. Et le soir, j'ai reçu un téléphone de Benoît Kaufmann, qui était le chef d'orchestre, qui m'a dit « Oui, bonjour, écoutez, vos élèves, ça a pas joué l'audition ». Je dis « Ah bon, c'est pas flatteur pour moi ». Oui, mais par contre, est-ce que vous seriez d'accord, vous, de venir jouer ? Et vraiment, je m'étais jamais posé la question. Et je dis, mais oui, mais pourquoi pas? Après, il fallait que je m'organise parce que j'avais quand même beaucoup d'occupations, je travaillais beaucoup et il fallait que je me libère parce que ça, c'était quand même 2 semaines de travail. Et finalement, voilà, je me suis retrouvé avec mon collègue qui enseignait à l'ESMA, Pierre-François Massy. On était les deux dans cet orchestre et c'était un bel orchestre de 50 à 60 musiciens avec, bon, c'est l'orchestre symphonique, mais il y avait aussi quelques musiciens qui venaient de Paris, qui étaient des musiciens de studio de Paris, qui avaient l'habitude de la variété, notamment le trompette solo, le trombone solo. Il y avait aussi, je pense, une bassiste électrique et surtout la percussion, le batteur qui était une bête de scène, qui était dans une cage comme ça, au plexiglas. Et voilà. Donc on a répété. Il y avait un immense orchestre. Il y avait deux pianos, il y avait un orgue, il y avait voilà, une centaine de musiciens et ça sonnait très bien. C'était vraiment très agréable. Et on a travaillé toute la première semaine. On a travaillé avec les compositeurs qui étaient aussi les arrangeurs. Et on a aussi passé pas mal de temps avec les crayons à gommer parce qu'il y avait beaucoup de fautes de basse, de renversement, de choses comme ça. Mais c'était, voilà, ça, c'était intéressant. Et après, voilà, effectivement, on a travaillé avec les artistes. Mais Céline Dion, elle est venue, elle a chanté, elle a chanté 2 chansons et elle a lancé aussi sa carrière. Et je crois savoir qu'elle voulait, enfin son manager René avait dit oui, elle va chanter donc sa chanson de l'Eurovision de l'année passée, mais elle va aussi chanter une chanson de son prochain album qui est en anglais. Et puis la télévision a dit non, écoutez, ça va pas parce que déjà l'émission est hyper longue, ça fait 2h30 d'émission, on ne peut pas encore rajouter. Et René a dit bon, bah, alors elle ne chantera pas du tout. Après, ils ont dit ok, d'accord, elle va chanter. Et si vous regardez l'émission en replay, effectivement, elle a chanté sa chanson, mais elle a chanté aussi la chanson de son nouvel album. Et c'est comme ça qu'elle a lancé sa carrière parce qu'il y avait, je ne sais pas combien de millions de téléspectateurs quand même. Et voilà, c'est comme ça qu'elle a commencé sa carrière. Mais à l'époque, elle avait, je sais pas, 18-19 ans. Elle était vraiment. Voilà.
Et oui, donc quittons momentanément Beethoven, Mozart, Ravel, Tchaïkovski pour un moment historique de l'histoire de la variété. C'est Céline Dion qui chante en ouverture de l'Eurovision « Ne partez pas sans moi ».
Radio Cité Genève.
Cherchez l'étoile, vous qui vivez un rêve, vous héros de l'espace, au cœur plus grand que la terre, vous donnez-moi.
C'était Ne partez pas sans moi, interprété par Céline Dion en 1989 en ouverture de l'Eurovision en Suisse. Et mon invité d'aujourd'hui, Michel Veillon, contrebassiste, était dans l'orchestre pour l'accompagner. Alors, vous êtes officiellement contrebassiste classique, hein, vous avez beaucoup joué avec l'Orchestre de la Suisse romande, l'Orchestre de chambre de Lausanne, ça c'était une des fois où vous aviez joué un petit peu ailleurs, mais c'est pas la seule, puisque vous avez fait partie pendant longtemps d'un groupe de variété, un groupe de folk qui s'appelle Sarclon, que vous avez joué en 1976, alors qu'il était constitué par Pierre-Louis et André-Daniel Mélan, Michel Fleury et Roland Tillmans. Est-ce que vous voulez nous en parler ?
Oui, ils étaient quatre, donc effectivement, ils venaient de sortir un album et à cette époque-là, on ne parlait que d'eux. Ils étaient vraiment partout, tout le monde écoutait. Et c'était, ils faisaient des concerts qui marchaient très bien parce qu'il y avait un côté chanson française où ils chantaient à plusieurs voix, ils chantaient aussi a cappella et puis ils faisaient aussi un peu des balles folles comme ça, la musique un petit peu celtique avec de la flûte, un petit peu de la flûte de l'harmonium et tout ça. Ça avait une couleur un petit peu intéressante. Et effectivement, comme ça marchait très bien pour eux, ils ont cherché un bassiste. Et moi, j'avais un ami qui était bassiste, et puis il était sur d'autres projets, et on lui avait demandé de jouer avec Sarclon, et il avait dit non, mais demandez à Michel Veillon. Effectivement, lui, il sera sûrement intéressé de faire ça. Et mon ami m'a dit, il faut que tu ailles à Beaume, ils jouent samedi soir, et après, tu les contactes, et puis comme ça, tu prendras contact avec eux. Et alors, je suis allé à Beaume. Effectivement, j'ai écouté le concert. Et là aussi, j'étais assez choqué parce que je trouvais que c'était d'excellente qualité. Il y avait deux guitares, il y avait violon, il y avait harmonium, flûte, tout ça. Et ça tournait bien, c'était juste, ils chantaient juste. C'était vraiment, j'étais très, très, très impressionné. Et puis la fin du concert, ils ont commencé à faire un bal folk, les gens ont dansé. C'était vraiment la folie. C'était un succès incroyable. Et puis moi, je me suis levé, j'ai dit bon, ok, je passerai la prochaine fois. Je me sentais tout timide d'arriver vers eux pour leur dire voilà, c'est moi, votre sauveur qui va jouer la basse avec vous. Donc je suis tranquillement parti en direction de la sortie. Et puis ce qui est assez marrant, que je raconte souvent à les gens, j'ai pas eu le courage de me présenter. Et en arrivant, j'allais ouvrir la porte pour sortir du bâtiment. Il y a une autre porte qui s'ouvre, c'était les toilettes. Et c'était justement André-Daniel Mélan qui sortait des toilettes. Et puis je me suis vraiment... Je suis arrivé contre lui comme ça. Et là, j'ai dit, c'est quand même un signe, il faut quand même que je lui parle. Je dis, ah, salut, écoute, c'est moi, etc. Ah, c'est toi, Michel, écoute, on te cherchait partout, pourquoi tu n'as pas passé? Je dis, non, mais je voulais réfléchir à tout ça. Donc, finalement, voilà, ils m'ont présenté tout le monde. Et après, j'ai passé aussi un casting chez lui. J'étais avec ma contrebasse, il m'a fait jouer, il m'a fait accompagner, il m'a demandé de chanter. Et puis, comme j'étais assez polyvalent, je jouais aussi des claviers, donc ça l'arrangeait pour l'harmonium. Je pouvais aussi faire du violon, donc voilà, j'étais assez polyvalent. Et je pouvais chanter les voix aiguës aussi, parce qu'ils aimaient bien les voix un petit peu aiguës. Et voilà, donc il m'a dit, pas de problème, voilà. Donc, j'étais engagé, et après, c'était... Ça, c'était en hiver. On a passé 2 semaines dans un chalet à Châteaudet pour travailler tout le répertoire dans cette nouvelle formation avec la contrebasse. Et après, on est parti pour des concerts et ça a duré 5 ans. Et c'était 5 ans de folie parce qu'on a vraiment beaucoup, beaucoup joué. Et pas seulement en Suisse, mais on a joué en Autriche, en France, en Belgique, en Allemagne. On faisait des grands festivals. Vous savez, en été, il y a souvent des grands festivals. Ils invitent beaucoup de groupes suisses et ça marchait toujours très bien. Et voilà, ce que j'ai dû changer, en fait, c'est comme on se déplaçait en train, ou on avait même un ami qui était d'ailleurs producteur à la télévision, qui avait un avion et qui devait en fait faire des heures de vol pour conserver sa licence. Donc il nous faisait des prix, il nous demandait le prix du train, puis il nous amenait en avion, et il revenait nous rechercher dans un petit avion 6 places. Et on n'avait pas de place pour la contrebasse, donc j'ai dû me faire construire une sorte de basse électrique qui était une basse fretless sans fret, qui était assez petite, que je pouvais mettre dans l'avion. Et puis voilà, donc après je jouais plus que la basse fretless sur scène, c'était plus facile et voilà, c'était plus simple.
Pour une vie de rockstar.
Pas tout à fait,
mais disons... en jet privé avec les instruments.
C'était pas des jets, c'était un avion à bimoteur.
D'accord.
Heureusement d'ailleurs.
D'accord, ouais. Je voulais vous demander justement, vous qui étiez dans l'OSR, dans l'OCL, pour des grandes tournées, vous avez joué au Carnegie Hall, vraiment dans les grandes salles mondiales de la musique classique. Est-ce que le fait d'être dans un groupe de variété locale, c'était une façon pour vous de garder un pied dans le folklore, dans la musique locale de la Suisse romande?
Oui, mais disons, ça s'est fait avant. Ça, c'était en 76. Après, je suis rentré à l'OSR en 81. Donc là, c'était après, après 4 ou 5 ans de vie avec Sarclan. Mais non, ça m'a aidé beaucoup, je pense. Ça m'a aidé beaucoup aussi à faire de la scène, avoir une responsabilité aussi. Quand vous arrivez sur scène, vous avez la télévision, voilà, il ne faut pas se planter, il faut chanter juste, il faut se concentrer. C'est la même chose dans la musique classique. Hein, quand ouais. vous devez jouer, il faut... Il faut y aller, quoi.
Je veux dire ça pour les familles, mais est-ce que justement pour quelqu'un qui voudrait naviguer un peu entre les musiques, comme vous l'avez fait, jouer de plusieurs instruments, est-ce que la contrebasse est un excellent choix pour ça ?
Absolument, la contrebasse est un instrument extraordinaire, parce que vous pouvez jouer toutes les musiques.
Ah bah c'est super. Donc toutes les musiques, on parle de musique de variété, on écoute tout de suite Mystère le Berger, c'est un des titres du groupe Sarclan dont vous faisiez partie et vous avez fait la musique de ce morceau, c'est ça ?
Exactement, oui.
On écoute tout de suite.
On l'appelait Mystère le Berger, sans vraiment savoir d'où il était. On le voyait quelquefois descendre au village avant les grands froids. Sa grande veste et ses yeux d'acier nous avaient tous un peu trop fait rêver. Comme un secret déguisé, ce qu'on ne savait pas. Tu mystère le berger, sans jamais te tourner. La source qui t'appelle là-haut ne chante pas que de l'eau, ne chante pas que de l'eau. Jamais été, les pierres semblaient nous regarder, les arbres en s'allongeant se déformaient. On a dû passer juste à côté, son ombre était là, on pouvait la toucher. Tu mystère le berger, sans jamais te retourner. La source qui t'appelle là-haut ne chante pas que de l'eau, ne chante pas que de
Cité Genève.
Émission Entre les âges.
C'était une chanson qui s'appelle Le Mystère Le Berger, d'un groupe qui était très actif dans les années 70, le groupe Sarclon, dont faisait partie Michel Veillon, contrebassiste classique professionnel, qui est mon invité d'aujourd'hui. Michel Veillon, vous avez aussi un rapport très fort avec la jeunesse, vous avez aussi une grande carrière d'enseignement, et justement, je voulais vous poser la question, le fait que vous ayez pas fait que de la musique classique, mais que vous ayez aussi une espèce de boys band comme ça, une vraie petite carrière de rockstar avec votre groupe. Est-ce que ça vous donne une façon un peu différente, un peu originale d'enseigner la musique ?
Oui, effectivement. Mais il faut dire une chose, c'est que si vous faites de la musique classique, par exemple, il faut pas tout miser sur la musique classique, parce que quand même, aujourd'hui, c'est devenu très difficile. Donc, c'est aussi bien d'avoir peut-être un autre métier, et puis faire deux choses à la fois, ou même trois choses à la fois, pour pouvoir avoir quand même des portes de sortie. Mais maintenant, le fait de faire de la musique pop, j'ai fait beaucoup d'ateliers, parce que je travaille au gymnase de Chamblande, et on a eu un groupe pendant 25 ans, où on formait, on avait des très bons musiciens, on formait un groupe avec guitare, basse, piano, batterie, etc., chanteuse, etc. Et on allait vers l'excellence, et puis je leur apprenais aussi à travailler sur des partitions, à gagner du temps, à faire un peu de solfège, parce que avec le solfège, on gagne quand même beaucoup de temps. Et le fait de faire cette musique avec les élèves, c'était aussi un enrichissement pour moi, parce que effectivement, j'avais de l'expérience de la scène, je savais les choses importantes à faire, parce que quand vous jouez, quand vous faites un concert avec un groupe pop, c'est pas seulement jouer, il y a aussi le son, il y a le son que vous avez sur scène, il faut être à l'aise avec le son sur scène pour chanter bien, donc tous ces petits détails, ça je connaissais parce que j'ai fait de la scène, et ça m'avait aussi aidé pour le classique, pour l'habitude effectivement d'avoir du public, et puis pas perdre les pédales.
Là, tout de suite, je pense à un grand écrivain que j'adore, mais qui a sûrement fait un peu de mal à votre profession, c'est Patrick Susskind, avec la contrebasse. Et à vous écouter comme ça, je me dis que vous êtes un petit peu l'antidote de cette image du contrebassiste classique, un peu renfermé comme ça.
Un peu loser. Non. Non, mais Susskind, il a fait un excellent travail, et c'est toujours drôle d'écouter ces artistes qui jouent cette pièce d'ailleurs, parce que certains font un petit peu de contrebasse, ils jouent un petit peu, mais effectivement, ils donnent une image qui est un petit peu rigolote.
Voilà, qui est drôle. Et d'ailleurs, moi, je vous ai connu, je vous ai entendu sur scène à deux occasions, puis c'était à chaque fois très original, parce que vous étiez dans un groupe de 8 musiciens, et c'était tous des jeunes. Et puis, c'est tous des jeunes entre 20, 25, 30 ans maximum. Une occasion, c'était dans l'Octuor de Schubert au Schubertiat de Tenay. Et l'autre, c'était quand vous jouiez l'Histoire du soldat de Stravinsky au Festival Stravinsky de Vorep. Alors, vous avez une grande et très longue carrière qu'on vient de décrire là pendant cette dernière demi-heure. Qu'est-ce qui fait que vous vous retrouvez à jouer avec des petits jeunots comme ça?
Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais effectivement, j'ai été contacté par la fratrie Bachmann, qui sont des musiciens extraordinaires de Genève. Et eux, ils ont une manière aussi d'aborder la musique qui est assez décontractée, qui est, voilà, on va essayer d'aller assez vite. Et j'ai eu un très bon contact avec eux, et beaucoup de plaisir à jouer avec eux. Mais effectivement, il y avait... on résumait, quoi. On répétait le matin, l'après-midi, on faisait la générale, et le soir, on faisait le concert. Donc, il faut être très bien préparé, parce que, voilà, on n'a pas beaucoup de temps pour répéter. Mais, spécialement dans le concert de Stravinsky, très franchement, pour moi, c'est un des plus durs concerts de ma vie, parce que je connaissais très bien l'histoire du soldat, je l'ai joué, j'ai fait beaucoup de productions différentes, j'ai fait beaucoup de spectacles, j'ai d'ailleurs commencé au conservatoire, d'ailleurs, avec l'histoire du soldat, à l'époque, quand c'était, je crois, le centième anniversaire de la naissance d'Ansermet, donc on avait fait cette pièce qu'on avait tournée en Suisse, je connaissais vraiment très très bien, mais le problème, c'est que quand on a fait ce concert, il n'y avait pas de chef, et c'est la première fois que je jouais sans chef, et vraiment, il fallait prendre des notes sur la partition pour compter les mesures. C'était très compliqué, mais ça s'est très bien passé. Mais voilà, ils m'ont un petit peu stressé quand même. mais le résultat était formidable.
Donc même pour un contrebassiste comme vous, qui avait peut-être 40 ans de carrière en orchestre et qui avait joué ce morceau toute votre vie, ça reste encore difficile, un chef-d'œuvre comme celui-ci.
C'est très difficile. Enfin, il faut rester, voilà, il faut surtout pour compter. C'est pas tellement pour jouer, parce que jouer, voilà, mais pour compter, pour rentrer juste, vous avez, je sais pas, un certain nombre de mesures à compter qui sont pas les mesures simples. Et après, vous partez sur la troisième croche et voilà. Si vous partez sur la quatrième, vous faites engueuler. Quoi.
Oui. Là, on parle de quelques petits festivals hein, très sympathiques avec jeunes musiciens. Il y a un autre festival qui compte beaucoup pour vous, mais alors là, c'est un très grand festival. Il s'agit du Paléo Festival de Nyon. Comment est-ce qu'un musicien classique comme vous se retrouve dans ce festival ?
Alors, Paléo, en fait, depuis maintenant plus que 25 ans, il y a une tradition, c'est de faire un concert classique le dimanche après-midi. Lors du dernier jour du festival. Et le but, disons, de cette démarche, c'est de faire découvrir la musique classique aux roqueux, aux festivaliers, qui ne vont pas forcément écouter un concert classique. Et voilà, depuis maintenant 16 ou 17 ans, je suis programmateur pour la musique classique pour Paléo, donc j'essaye évidemment de trouver des œuvres qui sont intéressantes pour les gens qui, voilà, qui ne connaissent pas trop la musique. Et j'essaie de faire découvrir tous les instruments. Donc il y a des grands orchestres qui viennent, il y a avec des chœurs, il y a des solistes, il y a des cameratas, il y a beaucoup de choses. Et voilà, c'est à un certain moment, je pensais que ça allait disparaître. Et au contraire, je me rends compte que les gens, il y a de plus en plus de public, et puis les gens s'intéressent aussi à ce concert classique, parce que c'est quelque chose d'assez inouï, parce que quand on joue, il n'y a plus aucune scène qui est ouverte, donc il y a uniquement le concert classique, et les gens viennent écouter, ils s'asseyent dans la prairie, et ils se recueillent un petit peu, et c'est des très très grands moments, et voilà, j'ai toujours du plaisir à faire ce concert de Paléo. Mais j'ai aussi souvent joué, donc, au début de la musique classique, j'ai joué beaucoup dans le concert classique.
Eh bien, Michel Veillon, je suis très content de vous avoir comme invité aujourd'hui, parce qu'en effet, toute votre vie, vous avez été un pont entre ces différentes musiques. Vous l'êtes encore aujourd'hui. Et d'ailleurs, pour revenir à un des groupes dont vous faisiez partie, un groupe de variété, vous souhaitez nous faire découvrir une autre chanson du groupe Sarclon. C'était « On, c'était la fête ». C'est comme ça que ça s'appelle ?
Oui, effectivement, c'était la fête. C'est le titre d'une chanson qu'on faisait. Mais on l'a fait à l'occasion d'un festival des musiques de Suisse romande. C'était en 1979 à Auchy, sous un immense chapiteau. C'était la fête à la chanson romande. Et il y avait tous les chanteurs de l'époque. Il y avait Michel Buller, Pascal Auberçon. Il y avait des groupes, etc. Il y avait le groupe Genevois Paddy Gros. Il y avait beaucoup de choses. Il y avait même Gilles, qui était monté sur scène et il pouvait plus chanter, mais il avait raconté l'Avenoge, le poème de l'Avenoge, et ça avait été vraiment une très grande fête et ça avait été un très grand moment.
Alors on écoute « On, c'était la fête » du groupe Sarclon.
Radio Cité Genève.
Soir assis près du bar à s'inventer des grandes histoires, on finissait même par y croire. Faut dire qu'on n'oubliait pas de boire. On se croyait fort et on se trouvait beau. C'était la fête. On savait qui faire, on se laissait pas faire par les rigolos. Si on en avait besoin, elle nous tombait toutes dans les mains. Fallait voir la gueule des copains, le bec dans l'eau et la queue dans rien. On se croyait fort et on se trouvait beau. C'était la fête. On savait qui faire, on se laissait pas faire par des rigolos. Bonjour, ils sont tous partis, trimardés ailleurs faire un nid. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour un beau parti? Pareil que c'est normal, pareil que c'est la vie. On se croyait fort et on se trouvait beau. C'était la fête, on savait qui faire, on se laissait pas faire par des rigolos. Soir soir, j'aperçois le grand Lucien. Une grande bagnole et puis trois gamins. L'avait beau dire que tout va bien, dans ses yeux tristes on lisait, tu te souviens. Est-ce qu'on était fort, est-ce qu'on était beau? C'était la fête, on savait qu'y faire, on se laissait pas faire par les rigolos.
Du groupe de variété Sarclon, dont faisait partie mon invité d'aujourd'hui, Michel Veillon, contrebassiste classique, une chanson qui s'appelait « On, c'était la fête ». Alors on espère que ça le sera encore dans le futur. Michel Veillon, une question qui tue. Vous avez connu beaucoup, beaucoup de musiciens, vous avez navigué entre les styles de musique, des musiciens classiques aux musiciens de variété, pop, folk, rock, qui sont les plus sympathiques ?
Sympathiques ?
Oui.
Oh là. Je sais, c'est difficile de dire c'est sympathique parce qu'on n'a pas beaucoup d'occasion, mais effectivement j'ai croisé des musiciens très très célèbres. J'ai croisé par exemple Keith Richards qui était le guitariste des Stones, parce qu'à l'époque j'étais chauffeur de taxi, je travaillais la nuit et la journée je faisais la contrebasse. Et effectivement, on me demandait souvent d'aller à Glion parce qu'il avait un petit chalet là. Et quelquefois, à 2h du matin, il faut aller chez Keith. Alors j'allais à 2h du matin et voilà, ils étaient en train de faire la fête. Il me dit « Oui, on va partir à Genève, à l'aéroport. » Je disais « Mais Keith, l'aéroport, il est fermé maintenant. »« Ah bon ? Oui, bon, très bien. » Je dis « Écoute, téléphone-moi quand tu seras prêt parce que là, ils étaient en train de faire la fête. » Il me dit « Non, mais viens boire un verre. » Je dis « Non, ça va. » C'était assez fou, quoi. Il était là, bon. Mais il y a d'autres aussi, d'autres personnes qui étaient très connues et que j'ai pris dans mon taxi, mais on était juste, on disait bonjour. Mais il y a aussi d'autres personnes que j'ai croisées, aussi des musiciens classiques qui étaient extraordinaires, quoi. Notamment Rostropovitch, que j'ai croisé aussi dans le concerto de Dvorak avec l'OSR, on était à Gstaad. Et effectivement, il a fait juste la générale. Et je me souviens qu'à la pause, après qu'il ait joué, tous les gens, tous les musiciens étaient autour de lui. Bonjour maestro, maestro, etc. Puis il était là et il avait son Stradivarius. Il nous expliquait qu'il s'appelait l'Empereur, je crois. Et puis il nous a montré le dos de son violoncelle parce qu'il y avait des piqûres d'éperon. Alors je sais pas si c'était Napoléon Ier ou Napoléon III qui avait voulu essayer ce violoncelle et il avait ses éperons et il avait touché le dos du violoncelle. Et je me souviens qu'il nous disait que les instruments qui étaient plats, qui avaient une table un petit peu plate, résonnaient mieux que ceux qui étaient trop bombés parce qu'il trouvait que comme ça la table vibrait plus si elle était un petit peu droite que trop bombée. Et je me rappelle, voilà, il était là, il était incroyable. Et quand il jouait, mais il était déjà âgé, hein. C'était un moment extraordinaire. Mais on l'a partagé avec tous les musiciens qui étaient autour de lui, à le regarder. Maestro, maestro, voilà. C'était une personne aussi extraordinaire.
Et oui, vous écoutez, hein, on peut penser que vous pourriez écrire un livre entier, hein, sur toutes les anecdotes, les gens célèbres que vous avez rencontrés, célèbres et moins célèbres, puisque tout le monde à votre contact a sûrement envie de raconter plein d'histoires. Et en tout cas, je vous remercie pour toutes vos histoires d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venu à cette émission Entre les âges, présentée par François-Xavier Poisa.
Merci de m'avoir invité. C'était vraiment un plaisir de discuter.
Ah bah avec grand plaisir.
Avec vous.
Avec grand plaisir.
Voilà.
Et j'espère qu'on fera d'autres émissions parce que vous avez tellement de choses à nous raconter.
Et de la musique.
Et de la musique, bien sûr, bien sûr. Donc là, on va se quitter encore avec de la musique. Un autre extrait que vous nous avez proposé, c'est le duo final du célèbre opéra de Richard Strauss, Le Chevalier à la Rose, Der Rosenkavalier.
Ça, c'est extraordinaire.
Chanté par Kathleen Battle et René Fleming. Merci aux auditeurs d'avoir été avec nous pour l'émission Entre les âges et à bientôt sur Radio Cité Genève.
l'émission Entre les âges.